Édouard Charton fonde en 1860 avec Louis Hachette le Tour du Monde, qui a pour but de faire connaître les voyages de son temps. Ce sont des voyages contemporains. C'est un recueil de relations originales par les voyageurs eux-mêmes. Tous ces récits sont complétés par des cartes qui constatent l'état le plus récent des connaissances géographiques et illustrées de photographies et de dessins rapportés par les voyageurs eux-mêmes et qu'on reproduit sur bois les artistes les plus habiles comme Gustave Doré, Carl Girardet et de nombreux autres. Le Tour du Monde, publié par semestre, est ainsi finalement tout à la fois un livre, un atlas et un album. Cette publication connut un succès considérable et fut traduite en plusieurs langues. L'œuvre de vulgarisation d'Édouard Charton fut surtout une conception nouvelle et originale d'éducation et de moralisation populaire. À l'origine, la lecture populaire se limite aux seuls livres d'éducation morale et civique, aux ouvrages didactiques d'utilité pratique et professionnelle. Mais Édouard Charton, comme Jean Massé, prône une lecture plus divertissante et tout aussi efficace. Il pense que l'instruction du public populaire peut aussi passer par le plaisir de lire des livres de récréation, des œuvres littéraires, des récits historiques et de voyages, qui, dit-il, stimulent l'imagination, éveillent la curiosité et incitent à l'étude. Et bien maintenant, mes amis, partons.
Bon, ce soir, je vous convie donc à un voyage. Voyage dans le temps, voyage dans l'espace. En une heure, nous ferons un tour d'Europe, plus rapide qu'avec le Concorde. Nous commencerons par l'Écosse, puis les îles Baléares. Ensuite, les fins fonds de l'Europe centrale. Retour dans nos montagnes du Dauphiné. Pour terminer, à Constantinople, aux confins de l'Asie. Attachez-vous, nous partons, et d'abord pour l'Écosse. Michel Blout nous présente.
Dans les toutes dernières années du 19e siècle, Mademoiselle Marianne de Beauvais, journaliste, est partie en août faire un très long périple en Écosse. Elle a détaillé toutes sortes d'impressions de ses très importantes relations de voyage, la beauté sauvage et romantique des paysages, des ciels lourds, du ciel éclatant après les averses, dans cette magnifique contrée de l'Europe. Que de châteaux nichés au détour d'une route encaissée dans les vallées profondes. J'ai choisi de vous narrer quelques thèmes succulents, d'après moi, de ce grand voyage. Notre Marianne suggérait quelques conseils pour voyager en compagnie étroite pendant de longues semaines. Voici. Essayez tout de suite de se prendre chacun par le bon bout, car lorsqu'on doit passer des heures serrées, encaquées, vrillées, genou contre genou, se faisant office de calorifère, autant essayer de n'être pas tout de suite grincheux. Elle avoue avoir toujours trouvé en Écosse, dans un voyage si laborieux, qu'obligeance, bonne grâce et sociabilité. Ils ont l'admiration des paysages silencieuses et ne dénigrent ni ne raillent tout ce qui est un travers particulièrement français. Elle nous donne aussi des conseils très pratiques. Même si le soleil brille, endossez vêtements sur vêtements, votre Macintosh en tweed caoutchouté par-dessus le tout et, une fois assis, posez sur votre genou votre couverture de voyage. Si vous avez trop chaud, laissez tout tomber sur le sol de la voiture, vous serez très heureux de les retrouver. En pérégrinant vers Aberdeen, elle apprit que l'on dit généralement, en parlant du temps, le temps se sombre. Et on ne connaît que deux saisons. 9 mois d'hiver et 3 mois de mauvais temps. Vive le Macintosh caoutchouté. La grande taquinerie des cochers au cours de ces longs périples, c'est de crier de temps à autre. Si ces messieurs veulent se dégourdir les jambes, il va y avoir une petite côte. Le ton goguenard aurait dû leur faire songer au petit quart de lieue du paysan normand. Car nous voilà partis pour 4 000 de grimpette, très sévère, parmi des lacets qui escaladent l'épaule du diable, rude caïrne déboulinant dans une vallée ténébreuse où le soleil n'entre jamais. Ah, le bon pays de rébellion et de brigandage! Ils avaient beau jeu, les Highlanders, à jambes de chamois, quand ils s'y dérobaient à la poursuite de lourds soldats saxons. Nos marcheurs forcés, revenons à eux, époumonés, sont distancés sans espoir de pouvoir remonter subrepticement sur la voiture. Le cocher, en arrivant au sommet de la côte, ne peut pas arrêter les chevaux qui se jettent dans la pente traîtresse. De loin, il leur crie de ne pas se jeter surtout dans des raccourcis, car ils risqueraient de s'enfoncer dans la tourbe. La route même est molle, malgré les empierrements récents. Le voyage continue. Fin août, près de Berremer, se passe la grande fête des clans sur la vaste esplanade du château. À grand fracas de pibrox, clapissants et de hurrahs tonitruants, bannières au vent, les clans défilent et paradent à une belle allure martiale, puis se livrent avec une frénétique ardeur de chasse sauvage à leurs jeux nationaux, athlétiques et militaires. Courses, saut, jet de la pierre et du marteau, escrime à la hache d'armes, ainsi que la lutte au corps à corps entremêlée d'exercices chorégraphiques et toutes les sortes de variétés de gigues. La reine encourage ses réjouissances. Le soir, les fortes têtes carrées des loyaux clansmen laissent leur raison au fond des bouteilles de whisky qu'ils vident à la santé de sa gracieuse majesté. Dans le genre un peu plus calme, en Écosse, dans des endroits habités sans en avoir l'air, Marianne nous parle de la pêche. Et dans ce pays, les pêcheurs amateurs laissent guère de poissons à prendre aux professionnels. Le saumon, tiens, quand il est pris, est furieux, et donc double sa force. Ce qui fait dire à Marianne de Beauvais que voir des pêcheurs tranquilles, surveillant leur ligne, est un spectacle calme, mais qui, tout à coup, peut se transformer en fracas de bataille. Les truites n'intéressent que peu les sportsmen, car cette pêche, plutôt pacifique, ne satisfait pas leur instinct de combativité. Vous remarquerez que revient toujours le caractère fort et impétueux des Écossais. Tout en continuant ses observations de voyage si abondantes, elle arriva à Saint-Andrew, qui est une petite station balnéaire dans l'estuaire de la Tay. Station comparable à Trouville. Mais les Écossais se gardent bien d'en faire un Brighton. On s'y baigne sans casino, sans ces foires aux vanités que sont nos stations. Ici, s'est développé un nouveau jeu de cricket. Plus sérieux, le golf. Ce jeu se pratique avec des balles rembourrées de plumes. On envoie très loin, à l'aide d'une crosse. Ce sport national écossais est très prisé par les Anglais aujourd'hui. Ce sport est moins violent que le football, nous dit Marianne, ce qui permet aux femmes d'y prendre part, ainsi qu'aux hommes qui ne sont plus tout à fait des athlètes. Le golf ne nécessite pas, comme au polo, des montures coûteuses. Notre jeune journaliste s'exaspère de constater comme en France, on raille les exercices du corps très variés ici. Cela lui semble tellement plus hygiénique pour l'âme, comme pour le corps de la jeunesse masculine, de dépenser son exubérance à exercer en plein air sa force, plutôt qu'à caramboler sur un billard dans la fumée des pipes ou en ingurgitant des bocs. Quant aux filles, en pratiquant le golf avec leurs frères, cousins ou amis, cela leur vaut mieux que de faire d'inutiles broderies. Revenons à l'origine de Saint-Andrew. Comme chacun sait, est le saint patron de l'Écosse. Voulez-vous apprendre comment cela s'est produit? Au IVe siècle de notre ère, des pèlerins doivent aborder un navire et un moine grec, Saint Régulus de Patras, qui apportait un bras, trois doigts et les deux orteils de Saint-André apôtre. Cette légende des bateaux désemparés, nous commente Marianne, est l'explication la plus plausible de certains étranges voyages où la tempête, plus que la volonté, jetait les navigateurs en des pays fort opposés à leur destination première. Voilà l'origine de Saint-André, patron de l'Écosse. Je vais conclure mon exposé sur un sujet tellement écossais, ceux que Marianne appelle les soldats en jupon. Elle assista un jour, avec ses compagnons de voyage, à la fin d'une semaine d'exercice d'un régiment d'Écossais. Le défilé, dit-elle, fut fort correct. Les jambes demi-nues se fendant en cadence sous le kilt, au pas vif des airs de gigue joués par les bagpipes. Ces instruments, faits d'outres de chèvres gonflées d'air dans lesquels on souffle au moyen de tuyaux percés de trous, ont bien le caractère à la fois pastoral et martial de la population des Islands. Toutefois, elle ajouta avoir vu des soldats vélocipédistes, car hélas, dit-elle, la bicyclette sévit aussi dans ce beau pays romantique. Et d'ajouter, c'est fort laid. Elle se moque gentiment des militaires qui, se mettant joyeusement à table après les manœuvres sous un soleil cuisant ce jour-là, ôtèrent leurs bonnets bleus. Eh bien, dit-elle, quelle calomnie de dire qu'il ne fait pas chaud en Écosse. Ces gentlemen avaient tous, en travers du front brun de hâle, un petit coin blanc en biais qui disait avec quelle uniformité ils le posaient tous régulièrement inclinés sur la tempe droite. Et j'ai gardé pour la fin la note romantique pittoresque qui nous montrera que ce voyage a bien eu lieu il y a 100 ans environ. Un jeune voyageur avait escaladé une montagne aride. Étant arrivé au sommet, il découvrit comme un cratère de volcan un lac. Un lac au fond d'un entonnoir gigantesque formé par des pentes à pic. Il ressentit une impression de paysage lunaire. Et notre Marianne de commenter, ni vous, ni moi, pas plus que lui, d'ailleurs, ne sachant comment est faite la nature de la lune, ce rapprochement de haute fantaisie ne nous dit pas grand-chose, il faudrait aller y voir. C'était en 1896.
Après le Nord, c'est la Pologne, la Galicie.
Excursion anthropologique au mont Tatras par le docteur Gustave Lebon. Les monts Tatras, suivant l'orthographe polonaise les Tatrés, sont constitués par une série de pics de granit d'une centaine de kilomètres de longueur situés au sud-ouest de la Russie entre la Galicie et la Hongrie. Ils forment la partie culminante de l'immense chaîne des Carpates. Un des premiers voyageurs qui les avait parcourus, le botaniste suédois Wallenberg, écrivait en 1813 que nulle part en Europe, sauf peut-être en Laponie, la nature ne présente un aspect si terrible et si grandiose. De Cracovie à Zakopane, village situé au pied des Tatras et point de départ de toutes les excursions importantes, il faut 18 heures environ de voiture. À partir de Novetalg, Neumarsch des Allemands, il n'existe aucun moyen régulier de communication. Les 4 à 5 heures de chemin qui séparent le voyageur de Zakopane doivent être faits à pied ou en charrette. Le jour allait tomber quand nous arrivâmes devant un poteau sur lequel se lisait en gros caractères cette inscription « Zakopane ». Malgré tous mes efforts, il me fut impossible de constater la moindre apparence d'habitation ou d'habitant. Je me demandais si, par hasard, les naturels vivaient dans des tanières, d'où ils ne sortaient que le jour, ou dans des grottes au fond des forêts, et si je n'aurais pour gîte, pendant la nuit, que l'abri insuffisant de ce poteau solitaire. La voiture continuait cependant à avancer. Un quart d'heure, une demi-heure s'écoulèrent, et toujours même absence de maisons et d'habitants. Après un long voyage dans ce village sans maison ni habitants apparents, nous arrivâmes près de l'église, monument constitué par une grange surmontée d'une croix. Autour d'elle se trouvaient groupées quelques cabanes. La voiture tourna brusquement à gauche et, après quelques kilomètres de course dans les champs, s'arrêta devant une petite cabane d'un aspect moins primitif que les autres. Près de la cabane se trouvait un personnage d'aspect un peu sombre, mais assez bien vêtu. Je lui demandai s'il pouvait mettre une chambre à ma disposition. Il fit un signe affirmatif, m'introduit dans une des deux chambres que paraissait renfermer l'habitation, et disparut. Décidément, les habitants de ce pays étaient aussi concis que clairsemés. La lune, qui éclairait en plein l'intérieur de la cabane, me permit d'en faire facilement l'inspection. Le luxe n'en avait rien d'excessif. Une paillasse recouverte d'une couverture, une chaise, une table et une cruche d'eau en composaient le mobilier. Mais si l'ameublement était un peu rustique, le décor extérieur que je voyais de ma fenêtre était splendide. J'avais devant moi une immense plaine garnie d'arbres et de verdure, au fond de laquelle se profilaient, argentées par les reflets de la lune, les cimes neigeuses de la chaîne gigantesque des Monts Tatras. J'étais plongé dans ces vagues rêveries quand une ombre passa rapidement devant ma fenêtre. Un coup d'œil me montra qu'elle était constituée par un vigoureux gaillard recouvert d'un manteau blanc qui semblait fait de peau de bête et portant une hache à la main. La première ombre fut suivie bientôt d'une seconde, d'une troisième, puis d'une douzaine d'autres. Toutes semblaient se concerter à voix basse en jetant du côté de ma cabane des regards qui me parurent peu pacifiques. Soudain, l'une d'elles fit un geste en brandissant sa hache d'une façon menaçante, et j'entendis éclater un chant de guerre accompagné de cris sauvages et de contorsions frénétiques. Les histoires de bandits que j'avais entendues raconter me revinrent à l'esprit. J'entrevis que j'étais tout simplement tombé chez ces féroces brigands dont on m'avait tant parlé. Semblables aux peaux rouges, ils entonnaient sans doute leur chant de guerre et se livraient à leur danse avant de commencer à attaquer. Danses et chants ne manquaient pas du reste de pittoresque. Cette bande de naturels hurlant et se démenant au clair de lune, avec d'immenses montagnes au dernier plan, lui semblait tout à fait originale, sans la fâcheuse perspective d'être bientôt attaqué et probablement scalpé. Le caractère de cette danse était tout à fait spécial. Chaque individu, après avoir entonné un chant consacré sans doute à énumérer ses exploits et le nombre de chevelures dont il s'était emparé, se mettait à tourner sur lui-même avec un trépignement rapide des pieds, les bras restant toujours immobiles. Chacun dansait à son tour dans le cercle étroit que formaient les autres autour de lui. Au bout d'un certain temps, il rentrait dans le groupe et un autre le remplaçait. Échauffés sans doute par le récit de leur combat, tous se mirent finalement à hurler, à chanter en cadence et à former une ronde en se suivant l'un derrière l'autre et entrechoquant leurs haches avec fracas. Ces chants de guerre et les danses qui devaient vraisemblablement précéder l'attaque de ma cabane, ne pouvant pas durer toujours, les manifestations hostiles allaient sans doute leur succéder. Je résolus d'entamer quelques négociations. Peut-être qu'avec ma montre pour le chef et quelques verroteries pour les hommes, j'arriverai à ne pas perdre la propriété de ma chevelure. Un coup discrètement frappé à ma porte me tira de ces réflexions. J'ouvris et vis apparaître un personnage de haute taille, revêtu d'une veste élégante de cuir rouge doublée de fourrure, la tête couverte d'une toque de feutre et tenant une hache à la main. À en juger par les apparences, je devais avoir devant moi le chef de la bande. Supposant que lui aussi voulait négocier, je m'apprêtais à lui offrir, délicatement, ma montre et mon porte-monnaie. Quand, s'adressant à moi, de la façon la plus gracieuse, « Je viens d'apprendre votre visite, cher confrère, et m'empresse de me mettre à votre disposition. » Enchanté de rencontrer un confrère, et surtout un confrère aussi obligeant, cher monsieur, docteur Wisniewski, professeur d'anatomie comparée à l'université de Varsovie. Divinité tutélaire des Tatras, j'avais pris un anatomiste pour un chef de brigand. Après le déjeuner, nous fîmes une excursion dans les montagnes voisines. Ayant rencontré un de ces groupes de bergers, j'en profitai pour le photographier. J'espère me concilier la gratitude du public en lui épargnant les descriptions techniques de mes diverses excursions dans les Tatras et des sites que j'y ai observés. Il m'a toujours semblé que le seul moyen de donner une idée nette et vraie de l'aspect d'un paysage est d'en montrer des dessins exécutés d'après des photographies. En matière de paysage, d'architecture, d'anthropologie ou d'histoire naturelle, une photographie bien faite remplace des pages entières de descriptions. Et il est vraiment regrettable que la photographie soit un art aussi peu connu des voyageurs. La profondeur des lacs des Tatras n'est connue que depuis une époque récente. Autrefois, les montagnards admettaient que ces lacs allaient jusqu'à la mer. Il existe à ce sujet une légende curieuse d'un marchand qui, ayant fait naufrage dans l'Adriatique, retrouva dans le rêvier une caisse contenant des objets perdus lors de son naufrage. Le versant nord des Tatras appartient seul à la Galicie. Le territoire qui s'étend à son pied jusqu'à Novetarg et qu'on désigne sous le nom de Podhale est habité uniquement par les montagnards. Voici du reste, d'une façon générale, la disposition des nationalités autour du Podhale. Au nord se trouvent des Galiciens des monts Beskides. À l'ouest et au sud se trouvent des Slovaques qui forment la population des comitats hongrois d'Arva et Liptov. Les Magyars, proprement dit, n'y sont représentés que par les grands propriétaires et les fonctionnaires. À l'est se trouvent des agglomérations de Slovaques et d'Allemands, du comitat de Zips. Au nord-est commencent les Ruthènes. Aux divers races que je viens de nommer, il faut encore ajouter les Juifs, si nombreux en Galicie. On voit ainsi que sur une étendue de quelques lieues se trouvent 6 peuples différents, parlant environ 5 langues. Je ne connais aucun autre pays de l'Europe où l'on puisse rencontrer autant de nationalités diverses accumulées dans un aussi petit espace. Les Podhalins sont habituellement de taille moyenne, un peu maigres, mais très vifs et très agiles. Le Podhalin se nourrit presque uniquement d'avoine, de laitage et d'eau. Les peuples divers que je viens de mentionner entourent tout le Podhale et le versant galicien des Tatras. Mais n'y pénètrent pas! Quelles que soient ces races, les Podhalins ne s'unissent pas plus avec elles qu'ils ne le font avec les Juifs ou les Slovaques. Il n'y a en réalité qu'avec les Polonais des frontières du nord du Podhale que le Podhalin s'unit. Mais les véritables Podhalins, c'est-à-dire les habitants des villages situés au pied des Tatras, se considérant comme très supérieurs aux autres montagnards polonais, ne se marient qu'entre eux. La langue parlée par les habitants du Podhale est exclusivement le polonais. Un polonais avec des formes un peu vieillies, peut-être, mais enfin le polonais. Quelques habitants seulement connaissent l'allemand. Les demeures des habitants du Podhale sont des cabanes très simples, mais en même temps très solides et très régulières, construites en troncs d'épicéa. Il y a généralement 2 chambres dans la cabane. Des bancs autour de la chambre et une table représentent le mobilier. Le tout est très proprement tenu. Planchers, plafonds et parois sont lavés chaque semaine. Près de la cabane se trouvent habituellement l'écurie, les tables, la grange et la fosse à fumier. Grâce à son intelligence, sa persévérance et son activité, le Podhalin a su se créer des moyens d'existence très variés. Ses aptitudes sont des plus remarquables. Il est à la fois menuisier, forgeron, serrurier, charpentier, charron, tisserand, tailleur, agriculteur, musicien et poète. Au point de vue du costume, les exigences des Podhalins ne sont pas beaucoup plus grandes qu'au point de vue alimentaire. Le vêtement le plus complet se compose d'un pantalon collant de laine blanche soutaché sur les hanches, d'une très courte chemise ornée d'une fibule de laiton sur la poitrine, d'une veste de cuir, tzadak, sans manches, doublée de peau de mouton, d'un manteau court de laine blanche, tzuha, de sandales et d'un chapeau de feutre garni de coquillages. Ils font toujours usage, quand ils marchent, d'un bâton, chupaga, terminé à sa partie supérieure par une hache à laquelle il sert de manche. Les femmes portent souvent la veste sans manches des hommes, mais les mauvaises cotonnades dont elles aiment à se couvrir leur ôtent tout aspect pittoresque. Contrairement à ce qu'on observe dans d'autres parties de la Pologne, elles sont rarement jolies et possèdent souvent ces figures rondes et aplaties aux pommettes saillantes si fréquentes chez les Slaves. Les montagnards du Podhale se rasent habituellement la figure. Il n'y a guère que ceux ayant été au service militaire qui portent des moustaches. Je n'en ai pas rencontré un seul portant toute sa barbe. Cet appendice est considéré comme un symptôme de mendicité. Des conditions difficiles d'existence et des industries variées auxquelles sont obligés de se livrer les habitants du Podhale montrent la fécondité de leurs ressources et, par suite, leur intelligence. Leurs facultés intellectuelles sont encore développées par le goût de l'étude très répandu chez eux. La plupart des montagnards savent lire et écrire, connaissance assez rare en Galicie, et aiment beaucoup la lecture. Leur supériorité intellectuelle est généralement reconnue du reste dans le pays. Le caractère des Podhalins présente un certain nombre de particularités. La plus frappante est une impressionnabilité toute féminine. Leur susceptibilité très grande et leur naturel assez vindicatif obligent à de grandes précautions quand on traite une affaire avec eux. Le sentiment de l'indépendance est poussé chez eux à un degré très grand. Habitués dès l'âge le plus tendre à supporter les privations et les dangers, ils ont beaucoup de décision et de bravoure. Ils sont actifs et très laborieux, bienveillants pour leurs amis et les étrangers, mais très sensibles à la moindre injure. Le sentiment de la famille est assez développé. Les enfants respectent beaucoup leurs parents. Les femmes partagent tous les travaux de leur mari et sont de très bonnes mères. Elles ont généralement une dizaine d'enfants. Les relations entre les sexes ne sont pas régies par une morale très sévère. Les jeunes filles ayant des enfants trouvent à se marier sans difficulté quand elles ne sont pas épousées par le père lui-même. Celles qui se trouvent dans cette situation ne sont nullement du reste l'objet de la déconsidération qui les accompagne dans les parties occidentales de l'Europe. Le sentiment religieux est très développé chez les montagnards. Tous les montagnards vont à l'office le dimanche. Ceux ou celles qui n'ont pu trouver place à l'intérieur de l'église restent agenouillés au dehors. Il m'a été tout à fait impossible, malgré mes investigations, d'obtenir des renseignements précis sur les superstitions des montagnards des Tatras, notamment sur les fées et les ondines des lacs dont on m'avait parlé. Le montagnard n'aime pas à s'expliquer sur ce point. Comme il est beaucoup plus instruit que les autres habitants de la Galicie, on doit admettre également qu'il est moins superstitieux. Son amour du merveilleux est cependant trop grand pour qu'il ait renoncé à toutes ses croyances. Les sentiments esthétiques des montagnards des Tatras sont très développés. La plupart sont poètes et musiciens et possèdent un talent d'improvisation remarquable. Après une longue journée d'excursion dans les montagnes, je les voyais se livrer à leur danse et à leur chant plutôt que de songer au repos. L'accompagnement est fait généralement par un violon manié sans aucune éducation préalable par l'un d'entre eux. Leur musique est tout à fait spéciale, mais je l'ai vue très appréciée par des connaisseurs distingués. Ces danses s'accompagnent toujours de chants exécutés tour à tour par chaque danseur et habituellement improvisés par lui. Quand j'annonçais mon intention de partir, les montagnards vinrent me faire leurs adieux. J'étais vite devenu l'ami de ces braves gens, qui tous se montraient pleins de prévenance pour moi. Ma cabane était un centre où ils venaient souvent le soir me donner le spectacle de leur danse et de leur chant. J'ai reçu aussi les adieux les plus sympathiques de la petite colonie polonaise qui fréquente Zakopane pendant l'été. Ce n'est pas sans de sincères regrets que je quittais cette belle et hospitalière contrée. Le temps passé à Zakopane comptera certainement parmi les moments les plus agréables dont j'ai conservé le souvenir.
Nous ne quittons pas les montagnes, mais nous revenons en France. Nous allons dans le Dauphiné.
Alors, il s'agit d'excursions dans le Dauphiné par Adolphe Johann, et Élisée Reclus en 1860. Le Dauphiné est la plus belle partie de la France. Il l'emporte de beaucoup sur le Jura et sur les Pyrénées, même sur l'Auvergne et le Velay. Ses vallées, ses gorges, ses glaciers étonnent par leur magnificence et leur étendue même les touristes qui reviennent de l'Oberland bernois ou de Chamonix. Sa plus haute cime voisine du Pelvoux atteint 4500 mètres. Si cette grande et belle province de l'ancienne France, presque rivale de la Suisse et de la Savoie, est beaucoup moins connue et rarement visitée, c'est, il faut le dire, la faute de ses habitants. Les Dauphinois n'ont jamais rien su faire pour attirer et retenir les étrangers. C'est à peine s'ils ont le sentiment de la beauté de leur pays. La plupart des familles nobles et riches y habitent des masures à demi ruinées. Sassenage, qui a le bonheur de posséder des curiosités naturelles, n'a jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit dans son intérêt pour faciliter aux visiteurs l'accès de leur village. Les sentiers sont si impraticables que les chèvres hésiteraient à y passer. Nulle part en Europe ne se trouvent des populations et des administrations plus insouciantes. La publicité ne suffira pas pour attirer dans ce beau pays les armées de touristes du monde civilisé. Il faut que la population se décide à tenter quelques efforts d'amabilité, de politesse et surtout de propreté. Les dépenses matérielles resteront peut-être improductives pendant longtemps, mais peu à peu, les pertes seront couvertes et les bénéfices augmenteront chaque année. Si j'avais eu l'honneur d'être directeur de la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, j'aurais réuni tous mes actionnaires et leur aurait tenu à peu près ce langage. « Messieurs, autorisez-moi à construire à vos frais, 23 hôtels modestes, confortables, propres, au prix modéré, dans 20 localités, et je vous promets que vos recettes ne tarderont pas à augmenter dans une proportion qui vous étonnera. Aujourd'hui, rien n'est encore fait, sauf quelques bonnes revues de publication à l'usage des voyageurs. Les auberges manquent presque partout, les guides sont rares, les voitures publiques impossibles, les chemins impraticables et les habitants peu empressés. Qu'importe cependant toutes ces petites misères aux touristes qui aiment la grande et belle nature des Alpes. Si leur âge et leur santé leur permettent de braver tous les ennuis, de surmonter toutes les difficultés, qu'ils aillent donc visiter le Dauphiné. Ils y seront amplement récompensés de leurs privations et de leurs fatigues. Ils auront aussi la satisfaction d'y faire des découvertes. Je n'ai pas la prétention d'indiquer aux voyageurs futurs toutes les vallées, toutes les montagnes, tous les passages du Dauphiné qui me semblent dignes d'une exploration. Je veux seulement, pour piquer leur curiosité, dans leur intérêt, leur montrer, avec l'aide du crayon de M. Muston et de nos plus habiles artistes, Girardet, Daubigny, etc., quelques-unes des curiosités naturelles les plus pittoresques et les moins connues. Avant d'entrer à Grenoble, la route de Paris gravit un petit escarpement au pied duquel roule l'Isère. Du sommet de cette côte, on découvre un des plus beaux paysages de la France. Jamais je n'ai pu me lasser de l'admirer. Heureux ceux qui savent apprécier ces chefs-d'œuvre de la création. Nous allons parler du village de Revel. Il ne possède aucune auberge. Il faut demander l'hospitalité au boulanger, M. Bellot. Le samedi est le jour important pour le boulanger et pour la population de Revel. Ce jour-là, M. Bellot cuit son pain et celui de ses pratiques. Les paysannes les plus riches profitent de cette circonstance pour faire cuire les unes un morceau de viande, les autres des légumes, mais toutes des pognes, qui est en automne le régal favori des Dauphinois et des Dauphinoises. 7 ou 8 villageoises, l'aristocratie financière du village, était groupée devant la gueule du four de M. Bellot. Elles n'avaient qu'une seule pensée. Leur pogne serait-elle cuite à point, de manière à satisfaire à la fois les yeux, l'odorat et le goût? Monsieur Bello s'élevait presque au sublime quand il ôtait à demi la plaque qui fermait la gueule du four afin de s'assurer si son expérience ne le trompait point. Sa pose, ses gestes, ses regards semblaient dire « C'est pour calmer votre impatience que je consens à jeter un coup d'œil furtif sur vos pognes, car je suis certain du succès de l'opération. » L'heure si vivement attendue arriva enfin, l'anxiété atteignait son paroxysme. Monsieur Bello enleva la cendre brûlante qui fermait hermétiquement la porte du four, retira cette porte, et saisissant sa pelle, il la plongea d'un air triomphant jusqu'au fond de l'âtre brûlant. Jamais pogne mieux réussi n'avait réjoui les yeux. Un cri d'enthousiasme et de joie s'échappa de toutes les bouches et nous mêlâmes nos applaudissements à ceux de la foule. À propos du patois, vers la Grande Chartreuse, les habitants emploient encore un patois imagé et sonore, mais ils parlent le français et le comprennent tous. On ne court pas le risque que raconte Racine en 1661 dans ses impressions de voyage à La Fontaine. « J'avais, dit-il, commencé dès Lyon à ne plus entendre le langage du pays et à n'être plus intelligible moi-même. Ce malheur s'accrut à Valence et Dieu voulut qu'ayant demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un réchaud sous mon lit. Vous pouvez imaginer les suites de cette maudite aventure et ce qui peut arriver à un homme endormi qui se sert d'un réchaud dans ses nécessités de nuit. » Donc, pour ça, la Grave, Touloisan, Saint-Christophe-en-Oisan, la Bérarde, la vallée de la Valouise. En compagnie d'un ami, je quittais la Bérarde par une froide matinée de juillet, une heure avant le lever du soleil. La magnificence du spectacle augmentait à mesure que nous montions vers le col 3756 mètres et nous contemplions plus bas un cirque de glace large de 2 à 3 kilomètres. Le glacier qui s'étendait à nos pieds offre le seul chemin par lequel on pénètre de la vallée de la Bérarde dans la Valouise. C'est le glacier noir. Il s'unit à la base du Pelvoux au glacier blanc. Les crevasses de ces divers glaciers sont assez dangereuses. Il s'écoule peu d'années qui ne comptent leur moisson de victimes. Une petite fille de 10 ans qui gardait ses brebis dans un maigre pâturage situé sur le bord du glacier avait glissé quelques jours avant notre passage sur une pente de mousse et disparu dans une crevasse. On n'avait pu découvrir son corps qu'après 2 jours de recherche. Un mois auparavant, un autre accident, qui heureusement ne se termina pas d'une manière fatale, avait eu lieu au même endroit. Un pâtre, arrêté sur la surface du glacier, sondait avec son bâton une couche de neige qui recouvrait l'ouverture d'une crevasse. Soudain, la neige s'affaisse et l'entraîne avant qu'il ait songé à se jeter en travers de la fente. Il se trouve à 25 mètres de profondeur, entre 2 murailles de glace bleue, sur un sol jonché de pierres. Sa position était tout à fait désespérée. À sa place, aucun autre n'eût songé à sortir de cette fissure étroite qui laissait à peine un rayon de lumière descendre jusqu'à lui. Les cris étaient inutiles car personne ne l'avait accompagné. Il se sentait gelé, ses vêtements mouillés se glaçaient sur son corps. N'importe, au lieu d'attendre avec frayeur cette mort qui devait lui sembler inévitable, il se met hardiment à l'ouvrage. Avec la petite hache qui termine son bâton, il taille à intervalles égaux, dans les deux parois de la crevasse, des trous profonds qui lui servent d'échelons pour remonter peu à peu. Il arrive ainsi jusqu'à une dizaine de mètres au-dessous de la surface. Mais une paroi surplombe tellement qu'il ne peut y tailler de marche et qu'il est obligé de s'arrêter dans son ascension. Son courage ne l'abandonne pas. Il creuse une sorte de niche dans une des parois et, vis-à-vis, 2 entailles rapprochées. Ensuite, il redescend, va chercher au fond 3 pierres, une assez large qu'il pose dans la niche, 2 autres plus petites qu'il place dans les entailles de la paroi opposée. Puis, il s'assied sur la grosse pierre afin d'éviter le contact de la glace humide pose ses pieds sur les petites pierres de la paroi opposée et ne cesse de battre la semelle pour maintenir la chaleur vitale. Il resta ainsi plus de 24 heures suspendu à la mi-hauteur de la crevasse. Le lendemain matin, les bergers envoyés à sa recherche entendirent ses cris et le retirèrent encore vivant de la fente du glacier. Alors, conclut M. Élisée Reclus, ce héros, qui déploya tant de courage et de présence d'esprit, est un crétin à l'œil terne, à la parole embarrassée, au long goitre pendant. À sa place, tout homme de sens se serait abandonné au désespoir, ou bien aurait croisé ses bras en invoquant la mort. Mais le pauvre d'esprit ne sut pas comprendre son horrible situation, et c'est pour cela qu'il réussit à sauver sa vie. Alors, l'arrivée en Valouise. La Valouise est une vallée tortueuse à l'offre des paysages les plus charmants des Alpes dauphinoises. Semblable sous ce rapport à toutes les peuplades isolées, les gens de la Valouise n'ont pas d'habitude commerciale. Ils ont l'ambition de tout produire par eux-mêmes. Chacun d'eux est son propre journalier, son charpentier, son maçon, son boulanger, son tailleur, son cordonnier. Quand il a besoin d'un vêtement, il tond ses brebis, en fait carder et filer la laine dans sa maison, la porte au fabricant qui la transforme en drap, puis au teinturier qui la teint en gros bleu, et enfin rapporte le drap à sa femme qui taille la culotte ou l'habit sur un patron laissé par la grand-mère. Lorsque vient l'hiver, l'interminable hiver, lorsqu'une épaisse neige remplit la vallée, ceux qui n'abandonnent pas le pays se réfugient pour échapper au froid dans les écuries creusées au-dessous des maisons. La respiration des chevaux et des mulets, l'absence de courant d'air, l'épaisseur des murailles, même la couche de neige qui obstrue toutes les issues, maintiennent une température confortable dans ces souterrains nauséabonds. On y transporte les instruments culinaires, les rouets, les fuseaux, les branches bénites et l'antique pendule qui mesure les heures de son tic-tac monotone. Le temps se passe assez agréablement pour les femmes qui ont toujours à vaquer aux soins du ménage, soigner les enfants, les vieillards et les malades. Quant aux hommes, ils n'ont qu'à se jeter sur la paille à côté des animaux, et sauf les heures pendant lesquelles ils soignent leurs bêtes, ils emploient leur temps à dormir d'un long sommeil semblable à celui des marmottes. Parfois, dans leur moment d'insomnie, ils tricotent des bas et vont tenir compagnie aux dames. C'est là un genre de vie inacceptable pour des hommes habitués au grand air, à la liberté du chasseur ou du pâtre. Aussi, la plupart d'entre eux quittent la prison dans laquelle l'hiver renferme leur famille et vont séjourner jusqu'au printemps dans les régions du Midi. Pendant la saison des neiges, le climat des Alpes devient celui du Spitzberg. Alors les femmes et les enfants confinés sous terre dans des écuries infectes n'osent plus sortir de peur de respirer l'air glacé du dehors. Autant les montagnes sont belles quand les vallées leur font une ceinture de feuillage, autant elles sont effrayantes à voir lorsqu'elles reposent sur un monde de frimas. Alors un silence terrible repose sur la vaste étendue des vallées et des montagnes uniformément blanches. Souvent les neiges tourbillonnent, fouettées par la tourmente, et les avalanches s'écroulent en grondant du haut des rochers. Au milieu de cette nature inhospitalière, l'homme blotti dans un souterrain se sent à peine le droit d'exister. Pour finir un petit peu, je vais donner quelques dictons du Dauphiné, qui ne sont peut-être pas exclusivement du Dauphiné, mais enfin, il se les approprie en tout cas. Mars, pluie de Mars grandit l'air bête et souvent annonce disette. Quand Mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. Avril, ciel moutonné et de courte durée.
Alors, voyage aux îles Baléares par M. Gaston Vuilly. Parmi les quelques îles constituant les Baléares, je me propose de vous emmener par l'intermédiaire du récit de M. Vuillier dans l'île de Minorque. Il partit donc de Barcelone et accosta après une bonne tempête dans la baie de l'Alcudia.
L'antique cité se trouve à 2 kilomètres du rivage.
Elle a connu grandeur et décadence après avoir souvent joué le premier rôle dans l'histoire de Minorque. Charles Quint lui donna même le titre de cité très fidèle.
Alcudia
finit par être désertée car les marais qui l'entouraient
étaient trop malsains. Monsieur Vuillier rapporte une impression terrible sur la ville, écrite par un voyageur vers 1800. En entrant dans cette ville infortunée, on se croit transporté dans le séjour des morts. Les maisons offrent le spectacle effrayant d'une masse de tombeaux et les citoyens l'image douloureuse de spectres. Mais ceci se passait au début du 19e siècle. Il faudrait aller y voir aujourd'hui avec l'assainissement des fameux marais. Gaston Vuillier quitta l'Alcudia pour aller à Mahon, capitale officielle. Il nous explique que ce port s'enfonce dans les terres, tortueux, vaste, plein d'autres bassins secondaires dans les replis de son rivage. Les Mahonnais prétendent que toutes les escadres du monde pourraient venir mouiller ici sans être aperçues l'une de l'autre. Notre voyageur fut subjugué, en s'avançant dans les rues de Mahon, de les trouver si propres que même le pavé des rues semble lavé et brossé chaque jour. Tous les samedis, les ménagères d'ici et des environs procèdent au blanchissage extérieur de la maison à l'aide de lait de chaux et au lavage des escaliers et des planchers. Si une fête a lieu dans la semaine, la veille, on procède au même grand nettoyage. On blanchit parfois jusqu'aux tuiles du toit, qu'on dirait recouvert de neige. Mais, si un deuil frappe une famille, les murs ne sont pas blanchis d'une à plusieurs semaines, selon le degré de parenté et des regrets laissés par le défunt. On a vu parfois des maisons non blanchies pendant 6 mois. C'est une douleur inconsolable. Mais le cas est assez rare, même à Mahon. Même ici, les greniers sont propres. Les punaises y sont totalement inconnues, jusqu'au nom même. Et pas de poussière, ni au plancher, ni aux poutres. Excepté la Hollande, notre voyageur pense qu'il n'y a pas de pays où l'on soit attaché à plus de soins. Minorque a été occupée par les Turcs, les Anglais et les Français à diverses époques. Il semblerait que l'occupation française ait été accueillie avec empressement dans ce petit pays religieux qu'elle délivrait du protestantisme des Anglais. En 1890, les habitants de Minorque pratiquaient encore la saignée, remise à l'honneur par Rousset. Partout dans la ville se trouvaient des enseignes. Ici, on fait la saignée. Les familles des malades tiennent autant que le malade lui-même à cette pratique, car s'il succombe, il partira au moins l'esprit tranquille. À Minorque, partout, les eaux ménagères ne sont pas jetées à la rue. On les conserve dans des récipients pour les donner au bonhomme qui vient avec une charrette munie d'un gros tonneau où chaque famille déverse ses eaux usées. Gaston Vuillier nous dit qu'il aimait aussi à se promener le soir dans les petites rues tortueuses, car, dit-il, je découvre parfois un jeune homme soupirant un ancien chant d'amour, tandis que je devine sous la tenture d'un balcon une forme féminine. Il dit se garder de troubler ces charmantes scènes en restant à observer dans un coin obscur. Parfois, le balcon est grillagé de haut en bas. Monsieur Vuillier ajoute pour l'anecdote que parfois, lorsqu'il arrive des suites fâcheuses à ces conversations nocturnes, les parents se creusent la tête sans pouvoir comprendre comment un tel accident a pu se produire dans de pareilles conditions. Lui-même avoue n'y rien comprendre non plus. Mais dit-il, ces cas sont fort rares à Minorque, où les traditions sont très respectées.
notre voyageur, en cheminant avec son guide dans les montagnes vers Surbervé, fut témoin d'une fête importante autour d'une noce. Dans ce barranco d'Alguidar, les maisons sont blotties dans la roche, comme nid d'hirondelles. Il resta toute une journée dans cette contrée, et en reprenant sa route, en sens inverse, il fut étonné de constater des transformations dans le sentier. Des murs de pierre nouvellement construits le barraient entièrement, ou bien des troncs d'arbres s'amoncelaient ici ou là. Des arceaux de fleurs multicolores ainsi que des fruits faisaient un chemin triomphal. Il demanda à son jeune guide du jour pourquoi en même temps ces fleurs si odorantes en guirlande et ces entraves si brutales au passage du chemin. C'est le chemin des nouveaux époux. On attend un jeune couple marié du matin. Sur leur chemin, les jeunes vont leur rendre la route difficile pour les arrêter et par tous les moyens les empêcher d'arriver à la maison. On veut aussi leur apprendre que le chemin du bonheur est âpre et douloureux. Mais les fruits, les fleurs suspendues plus haut symbolisent l'abondance souhaitée aux jeunes époux. Après cet épisode, le guide expliqua une autre coutume de noces, très ancienne, qui tend cependant à disparaître à Minorque comme ailleurs. Pendant la nuit, les mariés à l'intérieur dorment. En grand silence, une muraille est édifiée devant la porte des mariés, qui, au lever, sont fort surpris, désagréablement même, de se trouver emmurés. On les délivre dans la journée, après les avoir laissés supplier, appeler à l'aide derrière leur muraille. Monsieur Vuillet, qui était invité à cette noce, avait fait apporter un peu du fameux vin de Ferrarias, et tout le monde en but un peu, en mangeant un frugal repas. Sans cette munificence, on se serait abreuvé, dans ce jour d'allégresse, simplement d'eau pure. Puis, notre voyageur pérégrina encore vers Ciudadella pour poursuivre sa découverte des îles Baléares. Avant de s'embarquer, il visita une petite église dédiée à Saint-Nicolas. Il découvrit des murs entiers recouverts d'ex-voto, représentant des naufrages. Les gens de mer y viennent nombreux en pèlerinage. L'usage des ex-voto, nous dit notre voyageur, remonte à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains accrochaient déjà des ex-voto dans les temples, ou même les marins, miraculeusement revenus d'un naufrage, portaient en médaillon un petit tableau représentant cet événement qu'ils exposaient ainsi aux yeux de leurs concitoyens. Ainsi prend fin un petit survol de ce voyage à Minorque en 1890.
Pour terminer notre périple, nous allons aboutir en Turquie. Je vais vous parler des femmes turques. On se fait, chez les nations de l'Occident, une bien fausse idée de la condition des femmes turques. Et on leur applique volontiers cette exclamation de Diderot, « Femme que je te plains ». On se les imagine victimes de la tyrannie ou de la jalousie maritale, condamnées pour la vie à la réclusion dans de tristes appartements, gardées à vue par d'épouvantables moricauds, armés de bâtons et de fouets, sevrées de plaisir et de distraction, privées de toute société extérieure, réduites, en un mot, à ne voir d'autres figures humaines que celles de leurs compagnes de reclusion. Que de fois n'avons-nous pas entendu des dames parisiennes plaindre charitablement le sort de leur sœur de Constantinople et maudire la force personnifiée par le mari turc, opprimant la faiblesse résignée sous la figure de ces femmes. Touchante compassion, noble indignation qui prouve la justice et la bonté de vos cœurs, mesdames, mais qui n'ont pour origine qu'un préjugé. Oui, vraiment un préjugé, car nous doutons qu'il y ait en Europe un pays où les femmes, désœuvrées, curieuses, indolentes, avides de plaisir et de distraction comme l'est la Hanoun, sortent, flânent, courent après l'amusement, satisfassent leurs caprices et se donnent autant qu'elles, du beau et du bon temps, aussi bien au harem qu'au dehors. C'est à ce point que nous croyons que beaucoup d'Européennes n'hésiteraient pas à échanger leur sort et leur liberté relative contre le prétendu esclavage de la femme orientale, si elle la connaissait mieux. Nous ne parlons ici, bien entendu, du point de vue matériel. Au point de vue moral et intellectuel, c'est autre chose. Et si l'on veut se tourner de ce côté-là, nous comprenons et nous approuvons aussi ce mot « femme que je te plains ». La femme levantine est, avons-nous dit, la plus désœuvrée du monde. Elle l'est non seulement par suite de son indolence inhérente à sa nature, de l'insouciance de son caractère presque enfantin, de l'horreur qu'elle a de l'étude et de toute occupation sérieuse ou suivie, mais fatalement et par la force des choses. Le désœuvrement absolu, considéré dans les pays avancés en civilisation comme une exception honteuse, est général en Turquie. Et sous ce rapport, toutes les femmes y sont égales. L'éducation qui développe le goût des arts et les choses de l'esprit, ou l'amour du prochain qui porte à s'occuper de lui, font presque complètement défaut à la vraie Hanoun. Une jeune fille qui, à l'âge de 13 ou 14 ans, jointe à la connaissance de quelques travaux d'aiguille, celle de la lecture, passe pour une personne instruite. Et pour une savante, si elle en arrive à savoir écrire fort médiocrement, et les deux premières règles de l'arithmétique. Enfin, une Kiz, une jeune fille musulmane, sera citée comme un modèle de perfection si, avec tant de savoir, elle peut chanter de routine quelques romances, chansons, ou jouer du tambour ou de la flûte. Mais des sujets aussi accomplis sont bien rares, rares comme des prodiges. D'autre part, les mœurs ne permettant pas à la femme des classes moyennes de se livrer au commerce, elle est aussi oisive que la femme riche ou de haut rang. La femme pauvre, elle-même, ne travaille que par exception, le mari ne poussant jamais le despotisme jusqu'à l'y forcer, et lui associant souvent une négresse sur laquelle elle ne manque point de rejeter tout le fardeau du travail et du ménage. Toutes les femmes turques, à quelques conditions qu'elles appartiennent, sont donc, pour ainsi dire, perpétuellement condamnées aux farniennes. Or, l'ennui, ce monstre hideux qui naît de l'oisiveté, voilà le grand, le terrible ennemi qu'il leur faut incessamment combattre. Toutes leurs pensées, toutes les ressources de leur esprit ne tentent-elles qu'à ce seul but, chasser l'ennui, en d'autres termes, s'amuser, se divertir. D'abord, dans les harems riches, où chaque hanoun en titre possède en propre son appartement, quelquefois tout un corps de logis, son personnel et un train de maison complet, ces dames se réunissent toujours sur invitation, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Les amusements de ces intérieurs sont les jeux, les causeries et les contes, dans la douce paix du temps de dour pendant les rigueurs de l'hiver. Il y a la musique instrumentale et les chants à l'unisson, les danses et les pantomimes, les bains en commun et leurs jeux spéciaux. Les promenades et les courses dans les jardins et sur les terrasses, les émotions de l'escarpolette ou l'agréable balancement du hamac, le tout avec accompagnement de tchibouk et de narguilé. Enfin et surtout, il y a l'incomparable amusement des tours, quelquefois cruels et toujours à effet comique, joués aux nègres et aux négresses, dont les grognements, les grimaces et les contorsions grotesques provoquent des éclats bruyants d'hilarité. Du reste, il n'est pas besoin pour subvenir aux frais de ces plaisirs qu'un harem soit riche. Le tabac et les dundurmas, les sucreries, les fruits ne sont pas à des prix inabordables. Et d'ailleurs, on se cotise sans façon. Les dames d'un même harem sont souvent nombreuses, les voisines le sont bien plus encore. Et chacune d'elles peut et doit même organiser quelques-unes de ses matinées, journées ou soirées, ce qui permet de renouveler très fréquemment ses distractions de l'intérieur. Mais les plaisirs du dehors ont encore de plus puissants attraits. Et la hanoun les recherche et les goûte bien autrement que ceux de la maison. Elles satisfont davantage sa mobilité, sa curiosité et sa vanité sans pareil. Et comme rien, absolument rien, n'entrave sa liberté d'action, quoi qu'en pensent chrétiennes et chrétiens, elle se les donne le plus souvent qu'elle peut. Énumérons ses plaisirs, il en est quelques-uns qu'aucune relation de voyage n'a pu révéler, ni à nos lectrices, ni à nos lecteurs. Il y a d'abord la visite au bazar. Les hanoums ne se plaisent à sortir qu'en compagnie. On les rencontre souvent par groupe de 12 ou 15, sans compter les enfants de tous âges, qu'elles mènent par la main ou portent sur le dos. Elles vont ainsi dans les bazars de Tcharchi, qu'elles parcourent en tous sens durant une grande partie de la journée, ébranlant les voûtes de bois des éclats de leur voix et de leur rire bruyant. Elles sont l'effroi des marchands. Les hanoums ne se contentent pas, comme quelques parisiennes, de s'installer des heures entières dans les boutiques et d'y faire déployer et déplacer toutes les marchandises qui s'y trouvent, pour s'en aller ensuite sans rien acheter, ou après avoir offert des prix dérisoires. Elles s'introduisent de gré ou de force dans les arrière-boutiques dont-elles mettent sans façon leur propriétaire à la porte, pour y consommer à leur aise et le visage découvert, les friandises et les rafraîchissements qu'elles ont achetés aux marchands ambulants qui circulent en grand nombre. Enfin, traînant leurs babouches et le pan flottant de leurs ferretjés sur les dalles des bazars ou les pavés des rues, elles s'en vont, jetant à brûle-pourpoint à la face des gens, des boutiquiers aussi bien que des passants, des compliments naïfs ou étourdissants, ou des quolibets mordants et des épithètes mortifiants. Si quelque marchand leur répond trop vivement, gare à sa barbe ou à ses cheveux. Tout est permis à ces enfants terribles. L'esplanade de la viande est l'un des lieux ordinaires de rendez-vous des hanouns au sortir des bazars. Des espèces de marchés s'y tiennent de temps en temps, et rien ne saurait rendre alors l'aspect curieux et agité qu'elles présentent. Autre distraction, ce sont les visites. Alors, il y a des visites de trois sortes. Il y a les visites demandées ou annoncées, les visites par surprise, et les visites à l'aventure. Lorsqu'une ou plusieurs dames de la même maison veulent visiter des amis d'un autre harem, elles leur envoient deux demoiselles de compagnie, suivies d'un nègre, ou simplement un de ces monstres qui annoncent à la hanoune désignée que leur maîtresse viendra passer la journée chez elle. Ces visites sont rarement moins longues que la journée. Les usages et la civilité exigent que les visites annoncées, sauf les cas d'empêchement majeur, soient toujours accueillies avec empressement et le sourire sur les lèvres, toutes affaires cessantes, tout projet ajourné. Ainsi, averti dès le matin, la hanoune expédie ses gens mâles et femelles auprès de ses amis et connaissances pour les prier de venir en l'honneur de la dame qui s'est invitée elle-même. Quoique l'acceptation de ces invitations ne soit point de rigueur, bien rares sont les hanounes, les coconas, ce sont les noms des dames chrétiennes, et les boulidsas, les dames juives, qui s'en excusent. Encore ne le font-elles jamais qu'avec un chagrin très réel, tant le goût des réunions et des causeries est développé chez les levantines. Les habits de gala sont de rigueur. La réunion commencée d'ordinaire vers midi ne se termine guère avant la tombée de la nuit, tout l'intervalle se passant à fumer, à absorber quantité de tasses de café, de verres de limonade, de sirop, de fruits, de confitures, à jouer aux cartes et aux jaquets, à jaser bruyamment 2000 choses plus banales les unes que les autres, surtout à médire cordialement du prochain. Ôté de la visite annoncée l'avertissement qui la précède, les invitations en grand, qui en sont la suite, la recherche des toilettes, et vous aurez une visite par surprise, laquelle, toutefois, n'exclut ni la contrainte imposée à la visiter, ni la durée, ni les bombances de rigueur. Enfin, troisième type de visite, les visites à l'aventure, paraîtrait extraordinaire en France. Plusieurs dames se réunissent en groupe et s'en vont par les quartiers et les faubourgs de la ville, frapper aux portes de maisons inconnues, et offrir visite à des personnes qu'elles n'ont jamais vues. Les coconas et les boulidsas demandent l'hospitalité naïvement et le sourire à la bouche, comme des enfants timides qui convoitent un objet. Mais les hanounes ne demandent pas, elles entrent, bon gré mal gré. Pareil à certaines intimes. Elles s'imposent comme en pays conquis. Et avec le sans-gêne d'un seigneur honorant de sa présence la demeure de ses vassaux, il arrive bien rarement qu'une maîtresse de maison se refuse à recevoir ces sortes de visites. Son accueil peut seulement se ressentir de l'opportunité ou du contretemps de la surprise, et avant tout de son caractère et de son éducation. Troisième passe-temps, les promenades. Ce sont plutôt de véritables parties de campagne, les lieux de réunion en plein air étant fort éloignés de la ville et des principaux faubourgs qui l'environnent. On s'y rend les dimanches et les vendredis pendant la belle saison, en arabas ou en caïque, avec toutes sortes de provisions de bouche. Sur quelques-unes de ces promenades publiques, les sultans ont fait élever pour l'usage des hanouns des terrasses superposées en gradins dominant des pièces d'eau et un espace aplani où les acrobates et les prestidigitateurs, les musiciens et les danseurs ambulants donnent des représentations publiques. Le patichat vient parfois avec ses courtisans passer une partie de la journée, éblouir un instant de sa personne les yeux de sa charmante sujette qui le récompense de cette haute faveur par leurs acclamations enthousiastes et leur fervente bénédiction. Monsieur de Lamartine a fidèlement et admirablement décrit ces prairies émaillées de groupes innombrables de femmes levantines, habillées de ferretjés de mille nuances, et d'hommes aux costumes les plus variés. Il en a peint toute la poésie et tous les brillants plaisirs. Nous ne pouvons que conseiller au lecteur de relire ces belles pages du voyage en Orient. C'est une féerie. Aucune de nos fêtes n'en a le prestige. Vous avez ensuite les bains. Bien que dans presque chaque quartier, il existe un établissement de bains publics à l'usage des femmes, ou que du moins celui des hommes leur soit cédé 2 ou 3 fois par semaine, Léa nous aime beaucoup mieux se transporter aux bains des quartiers et des faubourgs les plus éloignés. Elle se concerte d'avance sur le jour et le choix de l'établissement, et passe une partie de la veille à préparer des pâtisseries et des mets succulents. Contrairement à leurs habitudes paresseuses, elles se lèvent avec le soleil pour se parer de leurs plus riches atouts. Bientôt, les arabas ou les caïques retenus plusieurs jours d'avance les emportent qu'à un cas à l'établissement convenu, où la plus grande partie de la journée s'écoule dans des alternatives d'ablution d'eau bouillante, c'est une sorte de bravoure hygiénique, de bombances de toutes sortes, de fumeries, de jeux, de rires, de chants, voire même d'altercations, ou de vraies batailles à coups de tasse et de galoches entre baigneuses de religions différentes. Pèlerinage aux turbés et aux téquiers. Les turbés sont des monuments funéraires des sultans, des princes et des princesses de leur famille. Chaque sultan a sa turbée particulière. Ses tombeaux s'élèvent dans les divers quartiers d'Istanbul. Pour les femmes turques, la visite des turbées les plus éloignées, dont elles obtiennent facilement l'accès, a un triple but de curiosité, de promenade et de piété. Elles vont ainsi par partie de plaisir aux tékis ou aux couvents, surtout à ceux des derviches tourneurs. Chaque tékis a des cérémonies publiques, joie et orgueil des vrais croyants. Quelques-uns sont célèbres pour leur musique, leur danse ou leurs exercices furieux. Quel plaisir émouvant pour les Hanouns de voir, par exemple, les Bektachis, aux torses et aux jambes nues, aux figures horriblement contractées, se percer les chairs avec de grandes aiguilles de fer, se frapper avec le tranchant effilé de coutelas et de yatagan, se couvrir le corps de serpents ou de couleuvres, se tirer les yeux hors de leurs orbites et se livrer à 100 autres extravagances effroyables. Comme les cœurs de ces dames sont agités, quel cri d'enthousiasme, quel soupir d'admiration, quel sanglot de piété. Enfin, je vais vous parler de la soirée du halva. C'est une soirée dans un harem, qui est un événement assez rare, et réunion de nuit étant contraire aux habitudes musulmanes. Aucun homme n'y assiste. Les soirées du halva, ainsi appelées du nom de certaines pâtes dures, friables et mielleuses qu'on y sert aux invités, n'ont lieu que dans les riches harems, à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'une élévation en dignité du Seigneur Marie, ou d'une réconciliation de deux hanouns cohabitantes, parentes ou amies. Quelques jours avant la fête, les suivantes vont porter les invitations verbales aux dames désignées. Quelques-unes de ces invitations sont faites par la maîtresse de maison en personne. Notez que les musulmanes ne sont pas seuls invités, des dames chrétiennes, occidentales ou indigènes, dont les chefs sont en rapport d'affaires ou d'amitié avec le maître de maison, peuvent aussi venir à ces soirées. Environ 1 heure après le coucher du soleil, les harems commencent à arriver, à pied, précédés dans les rues obscures. Istanbul n'est jamais éclairé la nuit, précédé de nègres ou simplement d'un domestique portant une lanterne à 2 ou 3 chandelles. Les djariettes de la maison, souriantes et aimables, viennent au devant des invités dans le vestibule. Leur adressent les paroles de bienvenue d'usage et les conduisent dans une salle basse qui sert de vestiaire. Du vestiaire, les djariés conduisent les invités au premier étage en les précédant le long de l'escalier droit. Dans les sérails et les riches harems, après avoir traversé plusieurs galeries, on arrive à la salle où la fête a lieu. C'est la plus vaste et la plus riche. Un divan de pourtour à haut matelas à coussins rembourrés de laine occupe 3 côtés de cette salle. Ou si elle est par trop vaste, 2 divans en fer à cheval se font face à 2 grands bouts. Des lustres en cristal taillés à facettes, dont un très grand au milieu éclaire magnifiquement de leurs 1000 flammes la salle de réception. En hiver, comme il serait très difficile de chauffer une salle de cette dimension, les cheminées et les calorifères étant inconnus dans les maisons turques, la réception se fait dans une ou plusieurs autres pièces moins grandes. La maîtresse de maison reste assise à l'un des angles du divan, place d'honneur, ainsi que celle qui est à sa droite. Les invités introduits dans la salle de réception s'avancent sans être annoncés vers la maîtresse, qui leur dit invariablement avec un aimable sourire « Seva Yeldinis »,« Kosh Yeldinis », échange avec elle Temena ses compliments, ou se donne sa main à baiser aux kids, aux tout jeunes hommes, et aux femmes du peuple qui se présentent souvent sans invitation pour assister à la soirée, et auxquelles on ferme rarement la porte. En Turquie, l'égalité est la règle, mais elle n'est pas absolue. Sur le bouyouroun de la haroun maîtresse, les arrivantes vont s'asseoir successivement et côte à côte, à droite et à gauche, sur le divan, les jambes croisées ou un genou levé. Le rite est très précis. Si le nombre des invités est trop grand pour que toutes puissent trouver place sur les divans, les Kis et les Hanoun d'un rang inférieur sont priés de s'asseoir sur les tapis qui garnissent le côté de la pièce dépourvue de divan. Les Jariés sèvent immédiatement le chibouk allumé dans des petites tasses de porcelaine sans anse, plongeant à demi dans une espèce de coquetier en métal précieux, artistement ciselé. De la confiture ou de la gelée de fruits rangée par petites portions dans un plat d'argent est servie après le café. Chacune des invitées, en commençant par la plus considérée après s'être fait longuement prier, porte à sa bouche l'unique cuillère qui est dans le plat et qui sert à tout le monde. Avec la même fraternité, toutes les lèvres se collent pour boire une gorgée au même grand verre d'eau qui suit le plat de confiture. La soirée débute par une conversation générale, bruyante, animée, joviale, les questions et les réponses se croisent en tous sens, les provocations et les réparties bondissent de divan en divan, les plaisanteries volent d'un bout à l'autre de la salle. Les perfides insinuations se heurtent entre deux groupes, et les exclamations et les rires remplissent l'air de leurs éclats argentins. Après le premier feu, la conversation de général devient partielle, sans cesser d'être creuse, banale et médisante. Soudain, un signal de la maîtresse de maison, ses filles ou celles de ses jarriers qui possèdent des talents en musique se mettent à chanter en chœur des romances et des chansons. Les plus jolies voix et les instrumentistes les plus habiles exécutent des solis qui arrachent des soupirs et des exclamations de contentement à l'auditoire. Sur un autre signal, au moment où exécutantes et auditrices sont transportées par la musique, d'autres jeunes filles se placent vis-à-vis au centre de la salle et se livrent à une sorte de pantomime dansée, se rapprochent, s'éloignent, s'enlacent ou se fuient, se penchent langoureusement sur les côtés ou renversent en arrière leur flexible taille, accompagnant toute l'action de claquements répétés de pouces contre les doigts du milieu en guise de castagnette. Pendant que s'exécute cette espèce de divertissement, les chibouks sont renouvelés sans cesse et remplissent d'un nuage bleuâtre l'atmosphère de la salle. Les rafraîchissements, les confitures et les tranches de pastèque, le café ou le salep défilent devant les invités qui se font beaucoup moins prier. Après la musique et les danses, la Hanoun maîtresse propose à la compagnie des parties de cartes ou de jaquettes. Les invités qui désirent se livrer au jeu vont prendre place autour des tables pour la partie de trick-track. Les jeux sont toujours intéressés. Les Levantines s'y passionnent comme nos joueuses de Hombourg, mais sans y risquer autant d'argent. Quelquefois, lorsque dans la réunion se trouvent des personnes possédant le talent de bien compter, on arrête le jeu. Mais il est indispensable que la conteuse ait reçu au suprême degré le don de patience. Car elle sera infailliblement interrompue à chaque instant par les « mais », les « pourquoi » et les « comment » de ses auditrices, quand bien même elles auraient déjà 20 fois entendu raconter l'histoire. Cependant, la maîtresse de maison, ayant interrogé du regard les yeux de ses invités, frappe 3 coups de sa main droite sur la paume de sa main gauche. À cet appel, la première jarrière accourt. « Viens, Khalva !» lui dit sa maîtresse. La jarrière se retire après une nouvelle salutation. Bientôt, d'autres filles déposent au centre un immense plateau rond d'argent contenant la fameuse pâte qui a la forme d'un gigantesque plum pudding aplati. D'autres sinistres, couverts de sucreries, de gâteaux chauds et froids, de fruits savoureux et d'autres friandises recherchées, sont posés ça et là et flattent agréablement la vue et l'odorat de ces dames. Sur l'invitation plusieurs fois réitérée de la Hanoun maîtresse, elles vont prendre place autour des sinistres, se transmettant mutuellement le bouillouroun. Elles attaquent enfin les 1000 bonnes choses dont ils sont couverts et qui disparaissent avec une rapidité merveilleuse. Le vin ou toute autre boisson alcoolique étant expressément défendu par le Coran, l'eau claire et le sherbet froid sont les seuls breuvages servis à ces soupers. Pendant que les plateaux s'allègent de leur agréable contenu, des jarriers armés de grands couteaux dépècent la khalva et la répartissent en autant de portions qu'il y a de cercles au milieu desquels on les porte dans les plateaux d'argent. On apporte ensuite les lekens et les invités, après s'être lavé, essuyé les mains et les lèvres, vont reprendre leur place sur le divan. Cependant, il est tard. La conversation languit et tombe insensiblement. Les paupières s'apesantissent, quelques bouches s'ouvrent toutes grandes sans façon, et les têtes, troublées par les vapeurs du repas et du sommeil, exécutent des évolutions fantastiques. Plusieurs enfants étendus sur la natte ou accroupis sur les genoux de leur mère dorment déjà profondément, et plus d'une invitée subalterne se dit à part elle qu'il serait bien temps de s'en aller. Mais c'est aux Hanoun qu'on respecte pour leur âge ou leur position qu'appartient l'initiative. « Par Allah !» s'écrie enfin l'une d'elles en regardant sa montre. « Savez-vous, mesdames, qu'il est plus de 4 heures du matin ? Il faut partir !» Oui, partons, partons. S'écrit-on de toutes parts et on se lève, nonobstant les protestations, les serments et les prières de cérémonie de la maîtresse de maison, qui seule reste assise pour recevoir les adieux, les bénédictions et les baisements des invités. Décrire le brouhaha des souhaits d'amitié et des adieux, des appels de nec pour chaque harem, de la demande des effets de sortie, des pleurs des enfants qu'on arrachait à leur sommeil, des éclats de rire des joyeuses quises, rapporter tous les propos et les compliments qui s'entrecroisent de toutes parts et se confondent sur les escaliers et dans les salles basses, ce serait chose impossible. Je n'ai pour ma part rien vu de comparable, excepté peut-être le plus infernal de tous les vacarmes humains, celui de la Bourse de Paris.